La crise syrienne a été marquée cette semaine par le rapt lundi de deux évêques à Alep. Les archevêques syriaques orthodoxes et grecs orthodoxes de la ville, ce sont les responsables chrétiens les plus importants à avoir été enlevés depuis le début de la guerre. Depuis, plus aucune nouvelle. Le pape François a appelé à leur libération. Monseigneur Antoine Odo, archevêque chaldéen d'Alep, nous a confié que c'était une attention fraternelle du souverain pontife pour les chrétiens d'Orient, mais pas seulement.
En insistant sur la solution politique. Et je trouve là vraiment une avancée très forte et courageuse du Saint-Père qui rejoint de plus en plus la communauté internationale qui se dirige vers cette solution que l'Église d'ailleurs depuis le commencement a soutenue en Syrie. Le dialogue, la réconciliation, une solution politique et arrêt des combats.
La crise syrienne marquée aussi par l'utilisation ou non d'armes chimiques du régime contre les rebelles. Les nouvelles contradictoires se sont succédées. Et puis, cette autre question, faut-il armer ou non les rebelles? Une question qui divise également. Pour sa béatitude Ignace Youssef Troyounan, le patriarche de l'église syriaque catholique d'Antioche, c'est clair. Il nous a expliqué qu'il ne veut pas d'interférence de la part des Occidentaux.
Ce n'est pas un régime militaire ou bien de clans de famille qu'on veut faire tomber. C'est un régime déjà depuis des années. Il y a un parti, il y a une communauté, il y a beaucoup de partisans. Si c'était vraiment une révolution populaire, ça aurait dû depuis longtemps être réalisé et ça aurait pu changer le régime. Nous prions le peuple français et tous les peuples de bonne volonté à sortir de cette indifférence, à dire leurs politiciens, il faut réformer un régime, mais ce n'est pas par la violence, il faut trouver des moyens plus pacifiques pour cela.
Armer les rebelles syriens, la France n'a pas vraiment tranché. Dans le pays, c'est une toute autre question qui divise le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Mardi, la France est devenue le 14e pays du monde à instituer le mariage pour tous. La veille, lundi, Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, avouait déjà être dans l'acceptation du processus législatif, mais tout en restant dans la résistance, comme il le dit lui-même.
Je crois qu'il y a à la fois la nécessité d'être présent dans la rue, c'est très important, d'une manière protestataire, que le mode d'action sur la forme a un peu changé, effectivement, avec l'émergence magnifique du mouvement des veilleurs, qui est entré dans une sorte de grand silence. Un grand silence intellectuel nourri par des lectures qui sont notre héritage et qui nous servent aussi pour l'avenir. Et puis que tout cela est une traduction concrète, pratique, que bien sûr à côté de la résistance, nous soyons un lieu de proposition.
La France, dont le président François Hollande était en Chine jeudi, un accord d'intention d'achat de la part de Pékin pour 60 Airbus a été signé. Une visite éclair de 36 heures, surtout économique. La question des droits de l'homme n'a été évoquée qu'avec discrétion. Une attitude très française d'autoflagellation, comme nous l'a expliqué Jean-Paul Ribe, journaliste et président du comité de soutien au peuple tibétain en France.
L'Allemagne, qui a 4 fois plus d'échanges économiques que la France, quand Mme Merkel va en Chine, elle parle ouvertement de la question des droits de l'homme. Elle rencontre le Dalai Lama, elle a parlé du Tibet. La France se fragilise elle-même, mais dans la balance, sa présence économique, avec un silence qui lui serait demandé, comme si la Chine accordait des faveurs quand elle achète des produits français, mais si elle les achète, c'est qu'elle en a besoin et qu'ils sont de bonne qualité.
L'Asie qui a été frappée d'un important incident. Mercredi, un immeuble s'est effondré dans la capitale du Bangladesh. En fin de semaine, on dénombrait plus de 330 morts et 1200 blessés. Le drame a provoqué une vague de colère dans le pays. Des centaines de milliers de personnes sont descendues vendredi dans les rues de Dhaka. Ils s'en sont pris aux responsables des ateliers qui abritaient l'immeuble, mais pas vraiment aux problèmes structurels, leurs conditions de travail, comme l'a analysé Jérémy Caudron, politologue spécialiste du Bangladesh.
En général, au bout de quelques jours, la situation est oubliée et le gouvernement ne fait rien véritablement pour mettre la pression sur les propriétaires d'usines. Les deux partis dominants au Bangladesh marchent main dans la main avec les milieux capitalistes. Même le parti Awami League, qui se dit plutôt de gauche ou de centre-gauche, est en fait totalement aux mains, disons, de ces grands industriels du secteur textile. Et donc, il n'est rien fait, disons, pour améliorer les conditions de travail, surtout faire que des syndicats puissent émerger, puissent jouer le rôle de contre-pouvoir.
La semaine a aussi été marquée par les péripéties de la politique italienne. Samedi, l'Italie avait enfin nouveau gouvernement. Après une semaine dense, lundi, Giorgio Napolitano, réélu président de la République, prêtait serment devant le Parlement. Mercredi, ce dernier choisissait Enrico Letta, numéro 1 du Parti démocrate, pour former un nouveau gouvernement. Pour les éditorialistes, le grand gagnant était Silvio Berlusconi. Une analyse que ne partage pas tout à fait Lucio Caracciolo, directeur de la revue italienne de géopolitique Limes.
Son avantage, c'est qu'il peut faire tomber le gouvernement quand il veut, en sachant que probablement il pourrait gagner les élections prochaines, même si après les élections, il serait quand même assez difficile de former un nouveau gouvernement. Le problème, c'est que le système politique italien a bien éclaté. Il faudra peut-être des années avant qu'on puisse reconstituer un nouveau système politique. C'est bien une incompatibilité parmi les trois forces les plus importantes.